vous écoutez Gloria saison 2, c'est le troisième épisode. Gloria, c'est une série de 10 émissions qui sont consacrées aux femmes rebelles, aux femmes guerrières, aux femmes combattantes. Et autour de la table, Véro.
Bonjour.
Christophe.
Hey, salut.
Timo.
Bonjour à tous.
Et Jérémy à la technique, merci.
Et Melior.
Salut.
La grande Melior.
Voilà, bon bah en fait, attends, j'ai oublié un truc, c'est que nous, on fait partie de l'association Les Effets Sonores.
Bah ouais,
donc on anime tous des émissions à la radio Studio Zef, la radio associative de Blois, dans le Loir-et-Cher.
C'est un peu la Dream Team, quoi.
Et bon, c'est ça, vous avez vraiment de la chance de nous écouter. Alors Timo, tu commences avec du
blues. Ouais, je commence avec une personne qui s'appelle Deborah Coleman, qui est née en 1956. Alors, elle est guitariste et chanteuse de blues américaine. Elle est très, très douée pour la guitare. Elle a remporté le prix Orville Gibson Award, qui récompense la meilleure guitariste femme. Donc, c'était en 2001. Donc, elle est née en Virginie. Elle a grandi dans une famille de militaires, fans de musique. C'est des gens qui déménageaient beaucoup. Donc, elle n'a pas vraiment d'origine géographique aux États-Unis. Et elle a appris à jouer avec son père et ses frères. Donc, son père jouait de la guitare, un de ses frères jouait de la batterie. Enfin, c'était un groupe familial. Donc, elle a joué dans beaucoup de festivals, Montré Jazz, San Francisco Blues. Enfin, c'est quelqu'un d'assez connu aux États-Unis. C'est vraiment une musicienne accomplie avec un jeu de guitare, on va l'entendre, hein, très robuste, puissant. Voilà, elle a sorti 9 albums depuis le début de sa carrière. Et on va s'arrêter plutôt sur la chanson qu'elle interprète. Donc, c'est I'm a Woman de Coco Taylor. Et c'est la chanson pendant de... Le pendant de la chanson de Muddy Waters, donc c'est I'm a Man, il crie dans cette chanson-là, I'm a Man, donc c'est la chanson Manish Boy, voilà, et dans laquelle il clame sa masculinité affirmée vraiment de bluesman avec, vous savez quoi. Et là, donc, cette chanson, elle a été créée par Coco Taylor, ou pour Coco Taylor, et c'est I'm a Woman, et on écoute ça, c'est parti.
Sing it from now on. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old to new. I'm a woman. When I'm down to the wire, I'm a woman. I'm a ball of fire. Well, I'm going down.
Yes, vous avez pu apprécier le jeu de guitare de Deborah Coleman, la blues woman.
I'm a woman. C'était... Enfin, pas moi, c'est le nom de la chanson.
Allez, 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 on est dans une émission la semaine, elle, là.
Allez, je mets une perruque.
Allez, on dit tout. Moi, maintenant, je vous propose de changer de registre musical. On va passer à la musique classique et je voulais parler de Augusta Holmes. Alors, elle n'a pas vraiment lutté pour une cause bien précise, mais surtout, elle a essayé de se faire une place, voilà, dans un monde d'hommes. C'est une compositrice de musique classique, chanteuse lyrique et poétesse française. Elle était d'origine britannique et irlandaise. Elle est née en 1847 à Paris. Et en fait, donc très rapidement, dès sa vingtaine d'années, elle commence à être connue. Il y a certaines de ses œuvres qui sont jouées même à Versailles. Et en fait, à l'époque, on réservait aux femmes en fait juste des petites compositions. On jouait des petites compositions, mais elle voulait vraiment tout faire. Donc faire et la musique, et le livret, et la mise en scène des opéras. Donc voilà, et ça, c'était vraiment un domaine réservé aux hommes à l'époque. Et là où elle a vraiment marqué son temps, en fait, c'est en 1888, le gouvernement français ouvre un concours musical pour célébrer le centenaire de la Révolution. Donc une année avant le centenaire, le gouvernement cherche un compositeur pour créer une pièce énorme qui serait jouée lors de l'exposition universelle de 1889. Donc elle propose son projet, on lui retoque, ensuite on propose à un autre homme de le faire, lui dit bon bah non, en fait finalement je veux pas le faire, donc finalement elle arrive à s'immiscer dans le truc et puis en fait on lui dit bon bah écoutez, allez on prend votre proposition qui s'appelle l'ode triomphale. Alors à ce moment-là, tout le monde se met un peu à crier en se disant oh là là, mais l'ode triomphale, mais ça va coûter une fortune, 300 000 francs de l'époque, j'ai pas fait la conversion mais visiblement c'était énorme. Parce que pour l'ode triomphale de Augusta Holmes, il fallait 900 musiciens et choristes, 300 figurants et ensuite de grands chanteurs. Donc il y avait plus de 1200 personnes sur le projet. C'était assez énorme. Et donc tout le monde a critiqué ce prix assez exorbitant. Mais il ne faut pas oublier qu'Augusta Holmes, elle faisait ça à titre gracieux pour la ville de Paris. Voilà, elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on joue sa pièce. Et donc elle a été présentée lors de 3 représentations devant 22 000 spectateurs qui ont tous été conquis en fait par ce projet. Voilà, alors donc ça, hop, elle se fait connaître, elle est reconnue comme véritable compositrice à ce moment-là. Ensuite, la ville de Florence lui commande un hymne à la paix. Voilà, elle commence vraiment à faire son chemin, quoi. Et puis elle a vraiment un objectif un peu plus tard, c'est l'Opéra Garnier. Voilà, elle veut que un de ses opéras qui s'appelle La Montagne Noire soit joué à l'Opéra Garnier. Pour elle, c'est un peu à l'Opéra Garnier. Pour elle, c'est un peu le Graal. Et à ce moment-là, en fait, c'est un peu les rancœurs suscitées par ses précédents succès qui refont surface. Et un mois avant la répétition générale, la presse la désingue. Voilà. Alors, et en fait, il y a notamment un journaliste qui dira, je cite, « les infortunes des rares auteurs féminins d'opéra ». Voilà, en disant c'est vraiment rare que ça marche. Là, on pense que ça va pas fonctionner. Et même si les gens finalement applaudissent, bon, elle s'est fait désinguer. Et ça met vraiment un petit coup dans sa carrière. Mais bon, bref, voilà, elle continue quand même à faire des choses assez exceptionnelles. Et on continue quand même à la casser en disant « Ah bon, bah là, vous faites trop sonner les cuivres », alors que sur la pièce précédente, on lui disait « Il n'y a pas assez de cuivres ». Après, c'est trop calme et puis c'est pas assez. En fait, voilà, tout ça, c'est que pour dire qu'on ne voulait pas qu'une femme ait cette place-là. Et d'ailleurs, même si elle était très connue à la fin du 19e, finalement, on a fini par l'oublier. Donc là, c'est l'occasion de vous faire écouter « Irlande », un poème symphonique d'Augusta Holmes. Thank you. Voilà, c'était Irlande, le poème symphonique de la compositrice de musique classique Augusta Holmes. Vous êtes bien à l'écoute de Gloria, une émission consacrée aux musiciennes et aux femmes en général rebelles, combattantes et guerrières. On continue, Véro, avec... Oui. De la soul music, si je ne me trompe pas.
Oui, entre autres, parce que cette artiste a fait beaucoup de choses. Elle s'appelle Ina Modja, de son vrai nom, Ina Bokoum. C'est une actrice, une mannequin, une chanteuse. Elle est née en 1984 à Bamako, au Mali, donc une gamine, quoi. Hein. Alors, sa mère l'appelle la Modja, la mauvaise fille, parce que c'est la plus têtue de la famille. Ouais, elle a un bon caractère, elle réclame ce qu'on lui doit. Ina Modja a été excisée à 4 ans, tout comme ses sœurs. Voilà. La chanteuse est ceinture noire de taekwondo.
Ouais.
Elle a compris qu'il fallait pouvoir se défendre seule, et on la comprend avec son vécu. Alors, quand elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à avoir été excisée sans qu'on ne lui ait jamais demandé ce qu'elle en pensait, évidemment, eh bien, elle ose le dire. Hein. Alors, dès l'âge de 10 ans, elle s'engage dans le combat contre l'excision. Voilà, je me permets de faire un petit point sur les MGF, les mutilations génitales féminines, qui désignent l'ablation de tout ou partie des organes génitaux externes de la femme et qui ne sont pas motivés par des raisons médicales. Alors, dans certains pays, un lien a été établi entre cette pratique et les rites de passage des femmes à l'âge adulte, bien que cela soit de moins en moins le cas. Cette pratique est parfois considérée comme un moyen de contrôle de la sexualité des femmes et des jeunes filles. C'est une définition d'Amnesty International. Pour en savoir plus, je vous laisse consulter le dossier sur le sujet de l'UNICEF. Mmh. Alors, à 15 ans, Ina Modja va frapper à la porte d'un des chanteurs les plus connus du pays, Salif Keïta, qui la fera entrer dans son orchestre à Bamako. Après une période musicale plutôt détendue, alors elle a fait un tube de l'été qui s'appelle French Cancan, et des conseils de beauté sur le net. Voilà. Bon, la guerre du Mali, au Mali, qui dure depuis 2012, va vraiment, vraiment toucher, ébranler l'artiste. Ce qui se passe donc dans son pays imprègne sa musique, comme sur le morceau Tombouctou, qu'on va écouter tout à l'heure, donc, où elle dénonce la guerre dans son pays, ou dans le titre Water, elle dénonce donc les problèmes d'accès à l'eau. Alors, comme disent les spécialistes, ce serait bien l'album de la maturité, cet album sur lequel est le morceau Tombouctou, cet album qui s'appelle Motel Bamako. Alors, ses influences sont vraiment multiples. Elle navigue entre musique soul, blues du désert du Sahel, guitare mandingue, la flûte peul, la kora, le hip-hop ou encore l'électropop. Alors, dernière petite information, elle a participé au projet collectif Les Amazones d'Afrique, dont je vous parlais dans l'émission précédente. Elle a tourné un clip aussi évoquant les violences conjugales qui s'intitule La valse de Marie-Laure. Voilà, on écoute tout de suite Tombouctou tiré de l'album Motel Bamako.
Bidona, Kongobora, San Salutani Fila Kono Kamenyanina, Anga Moku Pekasa Dungudu, Kokele Munteban, Ode Dabora, Antansigi Kanda Minesa, Kanga Dugutu Kafiru Bolusa, Uko Kubi Normine, Kubi Sudmine, Lise Kunchefe Kuba Nimine. Duku jera, lebora, uyu kali kuteki dali segi auma anga duku beka chidungudu surukudu nanga katahinana anga mago beka murutisa kuteka firijelasa uko kubamba umine kubamba umine kilese kuchepa kubanda amine Tombouctou, Bidona, Girl, Bidona, Sigato, Bidona,
Dibidona.
Vraiment top, hein, Inamoja, là, l'enregistrement, mais
sympa,
c'est
hein.
Ah, ouais, génial, ouais, ouais, génial.
Une basse, là, profonde. Ouais.
Carrément, ça ouais. entraîne bien. Ouais. Et là, ça va être un peu plus...
Rock'n'roll, voilà, évidemment. Rock'n'roll. Et on va prendre la direction de la Californie pour aller à la rencontre de Grass Slick. Alors, Grass Slick est très, très, très connu, notamment par son groupe, le Jefferson Airplane.
Bien sûr.
Ouais. Donc... pour ses origines, qui sont importantes, elle est d'origine norvégienne et suédoise. Le croisement peut s'avérer assez détonnant et très réussi, surtout lorsqu'on veut devenir un mannequin, ce qu'elle a réussi à devenir d'ailleurs un petit peu plus tard dans sa jeunesse. On peut dire avant ses années de mannequinat, dès son enfance, elle est considérée comme antisociale. Elle vit dans son monde, elle aime bien devenir Wonder Woman, devenir Alice du Pays des Merveilles. Elle écrit des poèmes qu'elle est la seule à comprendre. Enfin, c'est une, déjà, dans sa jeunesse, c'est une personnalité très particulière. Et après ses années de mannequinat, elle crée un premier groupe avec son mari, The Great Society. Son mari s'appelait Jerry Slick, d'où son nom Grace Slick, qu'elle a gardé toute sa vie. Pourtant, elle a fait plusieurs mariages, elle aussi. Elle a eu une vie mouvementée. Et ce qui est très amusant de voir, malgré leur vie commune, c'est que lorsqu'elle est partie de ce groupe en 1966, il a fallu qu'elle rachète son contrat à hauteur de 750 euros pour avoir le droit d'intégrer le Jefferson Airplane, donc qui était un des grands groupes de la scène psychédélique californienne de l'époque. Et d'entrée de jeu, elle a été la figure emblématique de ce groupe et elle avait une personnalité assez explosive, qui ont été assez perturbés par ses problèmes d'alcool, d'addiction. Dès ses études, elle buvait trop, elle se droguait trop, et elle était considérée comme une jeune fille dévergondée. Et au cours de sa carrière, ses problèmes d'alcool lui ont posé de sacrés problèmes, puisque certains soirs, elle était incapable d'assurer ses concerts. Notamment en 78, alors que le Jefferson Airplane était devenu le Jefferson Starship, elle a fait de la provoque qui lui a posé quand même des problèmes en Allemagne, où elle se moquait du public à propos de leur défaite sur la Seconde Guerre mondiale. C'était un peu chaud. Et par contre, à son tableau de chasse, on peut souligner que son groupe a réalisé le grand chelem des grands festivals des années fin des années 60, début des années 70, en ayant joué à Monterey, Woodstock et Altamont. Donc ça lui a donné une aura aussi vachement importante. Et dans le genre jeune fille décidée aussi, on peut noter qu'elle n'a pas hésité à poser un ultimatum à son groupe, qui était managé par la grande figure de San Francisco, Bill Graham. Et elle en avait ras-le-bol de ce gars. Elle a dit, dans la balance, soit vous me le virez, soit je reste. Donc elle a réussi à faire virer Bill Graham, qui était quand même le grand Manitou de San Francisco. Hein. Et pour terminer sur une petite anecdote qui aurait pu changer la face du monde, cette jeune fille, Grace Slick, a fait ses études avec la fille de Richard Nixon. Ah ouais. Et ils étaient amis très proches. Et lorsque Nixon est arrivé à la Maison Blanche, il avait organisé une petite garden party pour boire le thé. Et Grace Slick a été invitée. Et elle s'était mise en tête de trafiquer un peu son thé en mettant quelques microgrammes de LSD.
Le thé de Nixon.
Voilà, le thé de Nixon, évidemment, pour avoir quel effet
pour
ça.
Pour rigoler un peu, quoi.
Voilà, pour rigoler un peu. Bon, pas de bol pour elle, parce que les agents du FBI... qui, elle ne le savait pas, elle était déjà sur une blacklist, et donc l'ont reconnue, et surtout qu'elle était venue avec un militant pacifique qui lui aussi était sur la blacklist, et donc ils se sont fait refouler directement, et donc elle a dû partir, malheureusement, sans pouvoir tester les effets du LSD sur le président des États-Unis. Dommage. Et voilà, bon, et on peut dire aussi qu'elle a fait sans arrêt des allers-retours entre la musique, la peinture, cure de désintox, voilà. On peut se mettre une petite musique du Jefferson Airplane, évidemment.
Smile, nothing but an electric sign. You could say she has an individual style. She's a part of
of a carnival time. Super steel lady, chrome covered clothes you wear, cause you have no other. But I suppose no one knows you're my plastic fantastic lover. Shuts all of his nothing but a used machine. Her aluminum finish, slightly diminished, is the best I ever have seen. Cosmetic baby plugged into me and never ever find another. And I realize no one's wise to my plastic fantastic lover. Dust is starting to rust, her trapezoid thermometer taste. All the red tape is mechanical rape of the TV program waste. Data control and IBM science is mankind's brother. But all I see is draining me on my plastic fantastic lover.
D'écouter le Plastic Fantastic Lover des Jefferson Airplane. Et ben, on peut dire que cette charmante Grace League a été une activiste, entre guillemets, de la connerie, qui s'est opposée à la bien-pensance par ses petits gestes anodins, mais souvent très rigolos aussi.
Ouais.
Histoire d'une fille rebelle.
Frida Kahlo, peintre.
Dans une maison bleue près de Mexico vivait autrefois une petite fille prénommée Frida. En grandissant, elle allait devenir l'un des plus grands peintres du XXe siècle, mais elle faillit ne pas grandir du tout. À l'âge de 6 ans, Frida attrapa la polio et frôla la mort. La maladie la rendit boiteuse, mais ne l'empêcha pas de jouer, nager et chahuter comme tous les autres enfants. Puis à 18 ans, elle eut un terrible accident de bus. Elle frôla la mort encore une fois, et encore une fois, elle resta des mois alitée. Sa mère lui fabriqua un chevalet spécial afin qu'elle puisse peindre allongée, car plus que tout, Frida aimait peindre. Aussitôt qu'elle put remarcher, elle se rendit chez le plus célèbre artiste mexicain, Diego Rivera. « Mes peintures sont-elles bonnes ?» l'interrogea-t-elle. Ses toiles étaient incroyables, audacieuses, vives et magnifiques. Diego en tomba amoureux, et il tomba amoureux de Frida aussi. Diego et Frida se marièrent. C'était un homme dodu, coiffé d'un chapeau mou. À côté de lui, elle paraissait minuscule. Les gens les appelaient l'éléphant et la colombe. Au cours de sa vie, Frida peignit des centaines d'autoportraits extraordinaires où elle était souvent entourée de ses animaux et oiseaux de compagnie. La maison bleue où elle vécut a été conservée dans l'état où elle l'a laissée, pleine de couleurs, de joie et de fleurs.
Je vous donne rendez-vous